explique Qu'est-ce que l'islamophobie avec Philippe Diribarne et Farhad Khosrokavar. L'Europe post-hitlérienne est, pour des raisons évidentes, particulièrement sensible à toutes les formes de discrimination, d'exclusion ou de stigmatisation. Plus jamais ça, répète-t-elle inlassablement, et le ça commence avec le rejet de l'autre. Ces deux grands principes sont donc la tolérance et la vigilance. Cette vigilance s'exerce à l'égard de l'antisémitisme, du racisme, du sexisme, de l'homophobie et de l'islamophobie. La présence de l'islam en Europe se fait de plus en plus massive et visible. Il est devenu, nous dit-on, la deuxième religion de France. Et, dans ses derniers rapports, la Commission nationale consultative des droits de l'homme dépeint la société française comme habitée par l'islamophobie. On aurait affaire à une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans, les personnes perçues comme telles et ou envers l'islam, à une aversion. À mes deux invités, Farhad Khosrokavar et Philippe Diribarne, je voudrais d'abord demander s'ils partagent ce diagnostic. Farhad Khosrokavar.
Sous sa forme abrupte, c'est-à-dire qui consisterait à penser que la société française est dans sa totalité islamophobe contre l'islam et contre les musulmans, évidemment, la réponse est négative. Je ne pense pas que la société française soit intégralement contre l'islam. Par contre, il y a des préjugés contre les musulmans, il y a des stéréotypes, il y a quelquefois du racisme. Et je crois que il faut que la notion d'islamophobie, puisqu'il en est question, soit couplée à une autre notion, à savoir l'occidentalophobie chez certains nombres de musulmans, que ce soit en France ou dans d'autres sociétés européennes ou dans le monde. Bref, les préjugés contre l'islam vont de pair aussi avec des préjugés contre l'Occident, contre la laïcité, contre les formes de tolérance, si vous voulez, acquises à partir des Lumières au XVIIIe siècle.
Mais quels sont, Farhad Khosrokavar, les préjugés contre l'islam, les principaux stéréotypes selon vous?
Ces stéréotypes ont d'abord une racine historique. Encore une fois, c'est des deux côtés. Quand on analyse les phénomènes, on voit bien que les musulmans avaient des préjugés contre les chrétiens, dans le temps, et les chrétiens contre les musulmans. Et après la sécularisation, après les Lumières, on voit bien qu'il y a une autre façon de voir les mahométans, les musulmans, et que ces préjugés aussi ont aussi quelquefois des aspects positifs, comme chez Voltaire, par exemple. Il y a une sorte de construction historique, consciente ou inconsciente, qui est toujours là, et qui, du fait même de l'afflux des musulmans en Europe, à partir des années 1950-1960 jusqu'à présent, il y a aux alentours de 20 millions de musulmans qui sont venus s'installer en Europe, et qui ont fait souche, et maintenant on en est dans certaines sociétés européennes, à la troisième, voire la quatrième génération. Et là, se développent des préjugés, comme par exemple le rapport à ce qu'on pourrait appeler le foulard. Toute fille qui porte le foulard est fondamentaliste ou victime de patriarcat, etc., alors que des travaux de sociologie montrent que les choses sont beaucoup plus compliquées. Bref, il y a des préjugés. Mais moi, je crois qu'il faut toujours essayer de monter le dialogue, c'est-à-dire dénoncer les préjugés islamophobes ne signifie pas qu'il n'y ait pas de préjugés de la part des musulmans et qu'ils soient purement et simplement des victimes de la société française. Dans les sociétés démocratiques, les victimes, même quand il en existe, ne sont pas absolues. Et par conséquent, il faut ouvrir un espace dialogique. Et cet espace dialogique ne peut s'ouvrir que si on accepte des formes de tolérance limitées les uns vis-à-vis des autres. Évidemment, les musulmans sont venus en France et il faut qu'ils s'adaptent à la société française. Mais il faut que la société française aussi s'ouvre dans une forme de tolérance plus ou moins limitée en relation avec ce qu'on pourrait appeler la laïcité vis-à-vis des musulmans. Et je crois qu'il faut œuvrer dans ce sens-là.
Philippe Deribarne.
Je crois, si vous voulez, le discours de l'islamophobie surfe remarquablement sur le contexte que vous avez évoqué, donc la crainte de discriminer, la crainte de dire du mal de l'autre, et le discours d'islamophobie, parce que c'est pas seulement un terme, c'est vraiment toute une construction, toute une représentation du rapport du monde occidental avec l'islam et les musulmans. Donc, il le présente, comme cela vient d'être dit, comme étant uniformément un rejet. Et je crois qu'on est d'accord en fait, sur le fait qu'on est dans quelque chose d'extrêmement divers et nuancé. Et au fond, tout mon travail...
Oui, c'est-à-dire que ceux qui dénoncent l'islamophobie pensent en effet que le rapport des Français à l'islamophobie ou des Européens est homogène. C'est voilà. Un rejet
ils font de l'amalgame.
Catégorique et unanime.
Ils font de l'amalgame, voilà. Alors, en fait, quand on regarde les données, et même les données de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dont vous avez évoqué les conclusions, je crois que c'est très fascinant, si vous voulez, de rapprocher les conclusions des données brutes d'enquête, disons, qu'elle utilise. On voit donc que ce regard porté sur l'islam est extrêmement nuancé et qu'il distingue à la fois entre divers aspects de l'islam et qu'il distingue entre divers personnes que l'on peut qualifier de musulmans. Dans un premier temps, on peut dire que on sait bien, disons, que l'islam a à la fois une dimension proprement religieuse, spirituelle, le jeûne, la prière, la profession de foi, le pèlerinage, etc. Et en même temps, une dimension sociale, hein, qui régit, disons, les mœurs, et en particulier dans cette dimension sociale, un aspect de cette dimension sociale est le problème de la liberté. Et de la liberté de conscience. Hein. Un musulman n'a pas le droit de se convertir à une autre religion. Une musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Et le problème de l'égalité. Alors, ce qu'on voit, disons, c'est qu'à la fois, je pense qu'on pourra le développer, c'est que l'islam, il y a à cet égard peu de liens entre ces deux dimensions. Et selon qu'on prend la dimension spirituelle ou la dimension sociale, on arrive à des conclusions, à des regards tout à fait différents sur l'islam. Et que les Occidentaux ont une claire conscience de cette distinction. Et qu'en fait, quand on prend par exemple les données qu'utilise la Commission nationale des consultatives des droits de l'homme sur que pensez-vous de tel ou tel aspect de l'islam, on a des réponses tout à fait contrastées selon qu'il s'agit, disons, du jeûne, de la prière, qui sont l'objet d'appréciations positives, ou qu'il s'agit au contraire d'aspects reliés à une question de statut social, la place des femmes, disons, dans la société, qui, elle, est l'objet d'appréciations négatives.
C'est intéressant, c'est-à-dire que on fait spontanément, en France et en Europe, une distinction entre le spirituel et le social et le politique. Hein. C'est rendre à César ce qui est à César. Ça a conduit d'ailleurs Rémi Brague à dire que la seule religion authentique, la seule religion qui ne soit que religion, c'est le christianisme. Simplement, l'islam fonctionne autrement. Et considérez-vous, Farhad Khosrokhavar, que les réactions négatives à l'égard de l'islam comme ordre social relèvent aussi du préjugé ou du stéréotype ou de l'incapacité de l'Occident à penser l'islam dans sa vérité intrinsèque.
Quand on analyse ces phénomènes, on voit bien que les deux dimensions sont imbriquées. Je veux dire, voilà. C'est très difficile de dire que cela relève du préjugé pur et simple et que cette autre dimension est vraiment une injustice vis-à-vis de l'islam. Il y a les deux. C'est-à-dire que je pense que dans l'islam, tel qu'on le voit aujourd'hui, il y a des dimensions qui doivent être remises en cause. Il n'y a aucun doute que, par exemple, l'égalité de l'homme et de la femme doivent être défendues, même dans les sociétés musulmanes. Dans un article dans Le Monde, j'ai défendu les femmes qui ne portent pas le foulard en Iran ou en Arabie Saoudite ou ailleurs et qui sont réprimées. Une femme doit pouvoir décider elle-même souverainement de son accoutrement. Et par conséquent, on ne peut pas lui imposer le voile ou inversement, lui dénier le foulard, mais pas le voile intégral, dans la mesure où c'est une décision souveraine de sa part. Je crois que les droits de l'homme, les droits des femmes doivent être respectés, même par les musulmans. Et il y a maintenant, si vous voulez, des groupes d'intellectuels musulmans qui remettent en cause ces dimensions-là, au nom même de l'islam. Mais ils sont minoritaires. Et ils sont minoritaires aussi pour des raisons historiques, dont l'une des plus importantes, c'est quand même l'Arabie Saoudite. En 50 ans, l'Arabie Saoudite a transformé une version wahhabite de l'islam qui était minoritaire en une version majoritaire. Pourquoi ? Du fait du pétrole, du fait de la possibilité financière qu'il avait de répandre ce message, ce type de message dans le monde musulman. Donc là aussi, si vous voulez, il y a une sorte de complicité de l'Occident face à l'Arabie Saoudite qui joue un jeu pervers dans ce sens. Mais évidemment, les problèmes de l'islam ne se réduisent pas à ce phénomène. Il y a une sécularisation tardive de l'islam qui fait que maintenant, il faut que cette religion, ou plutôt les musulmans, changent eu égard à ce qu'on pourrait appeler les droits universels de l'homme.
Ah, d'accord, mais alors arrêtons-nous à la question du voile. Philippe Diribarne, acceptez-vous cette distinction entre les femmes qui portent le voile parce qu'elles y sont contraintes justement par un certain ordre social et les femmes, voire les jeunes filles, qui décident souverainement de porter le voile pour affirmer leur identité? Et c'est ce que vient de dire Farhad Khosrokavar, c'est aussi ce qu'écrit de manière assez paradoxale Hélène Béji dans Islam Pride, alors qu'elle est très laïque. Elle dit, ben oui, elle appelle ça une forme d'Islam Pride dont faudrait tenir compte.
Je crois d'abord, ce n'est pas si difficile de distinguer dans l'islam ce qui relève du spirituel et ce qui relève du social. Parce que ce qui relève du spirituel, on a vraiment une extraordinaire unité du monde musulman. Le ramadan se fait à la même date, les prières sont les mêmes, la profession de foi est la même, etc. Au contraire, si on regarde le social, on a une extraordinaire diversité du monde musulman. La tenue des femmes, par exemple, selon que vous allez en Afghanistan, en Indonésie ou au Mali, vous n'aurez des tenues qui n'ont absolument rien à voir. Et puis par ailleurs, même si on se reporte, si vous voulez, au texte fondateur, j'ai été frappé, par exemple, de voir que, dans le Coran, quand il s'agit du domaine spirituel, il y a vraiment une stricte parité entre hommes et femmes. On parle des croyants et des croyantes, et on décline, disons, les droits des croyants et des croyantes, les devoirs des croyants et des croyantes, comme rigoureusement identiques. Alors, c'est au contraire, si dans le domaine social, qu'il s'agisse du témoignage, qu'il s'agisse de l'héritage, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse de la tenue, qu'on a une grande distinction, si vous voulez, entre le social et le culturel. Et le spirituel, pardon. Alors, ce qui est frappant, disons, quand on parle du fait que la femme doit cacher ses atours, eh bien, elle doit cacher ses atours, mais pas aux eunuques. Elle peut montrer ses atours aux eunuques. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans le rapport à Dieu, on est dans le rapport aux hommes. Alors, sur la question, disons, effectivement, la question du voile est au cœur de toutes les débats, le collectif contre l'islamophobie en France en a fait son cheval de bataille, l'organisation, la coopération des États islamiques en fait aussi son cheval de bataille. Alors, je pense que l'erreur, c'est de dire où on est dans l'imposition, où on est dans la liberté. Parce qu'un ordre social, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir lu Bourdieu pour savoir que un ordre social est d'autant plus efficace qu'il donne à ceux à qui il s'impose le sentiment qu'ils le suivent de manière, disons, tout à fait libre. Et que bien sûr, les femmes qui portent le foulard ou qui portent le voile ne le font pas parce qu'elles sont toutes soumises à un patriarcat horrible qui les contiendrait. Du reste, ce serait complètement se tromper sur le rôle des femmes en islam de le dire. Et du reste, je sais pas, quand on voit, pour prendre un cas extrême, les femmes qui vont faire le djihad, elles le font volontairement. Il y a eu quelques temps des agressions en prison, disons, des surveillants avec un homme et une femme. C'était la femme qui était la plus décidée et pas l'homme. Voilà. Donc, dire qu'il y a une volonté de le porter, une liberté de le porter, ne veut pas dire que la tenue islamique n'est pas en même temps un élément structurant et capital de l'imposition d'un ordre social et du contrôle social. On voit bien du reste ce qui se passe dans ce nombre de territoires dans lesquels on sait bien que les femmes, qui y compris disons en France, voudraient s'habiller disons de manière occidentale, se heurtent aux plus grandes difficultés.
Vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Farhad Khosrokhava.
C'est-à-dire qu'il y ait des normes, cela me paraît une évidence incontournable. On ne peut pas vivre sans normes. Mais le problème essentiel, c'est dans la tolérance vis-à-vis de ces normes. C'est-à-dire comment on adapte les normes à une société où, qu'on le veuille ou non, entre 6 à 8% de la population actuellement en France se réclame de la religion d'Allah. Bon, il ne s'agit absolument pas de vouloir nier la liberté d'expression, nier la liberté de conscience, mais on peut aussi, quelquefois, se poser la question de savoir si une attitude totalement iconoclaste, par exemple, les caricatures, si vous voulez, de Mahomet, les anglo-saxons ne l'ont pas fait, ou, par exemple, une attitude frontalement insultante vis-à-vis de la religion, pas seulement l'islam, mais aussi le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, etc. Est-ce que cette attitude ne doit pas être plus ou moins intérieurement modéré par le fait qu'on est dans un monde qui n'est plus celui du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle. Le problème, c'est un problème de bon sens et non pas de la remise en cause des principes.
Oui, mais là, c'est comme si vous en appeliez, Farhad Khosrokhava, à une forme d'autocensure, c'est-à-dire que, disons, la critique des religions... C'est une tradition française. L'anticléricalisme a été extrêmement virulent à la fin du XIXe siècle.
Tout à fait raison.
Les caricatures anticatholiques étaient terribles. Et là, maintenant, vous nous dites, attention, on ne peut pas trop blesser les musulmans en se moquant d'Allah ou du prophète. C'est tout de même revenir sur ce qui peut apparaître comme des conquêtes des Lumières. C'est-à-dire, oui, les religions ont leur place, mais on peut aussi se moquer d'elles, et non pas se moquer de leurs fidèles, mais se moquer de l'emprise qu'elles veulent exercer sur leurs fidèles. Je me rappelle cette caricature de Charlie Hebdo, où on voyait Allah catastrophé. C'est dur d'être aimé par des cons, si vous voulez. Donc, il y avait une sorte de critique d'une religion extrêmement virulente et despotique. C'est assez légitime de le permettre dans un pays qui est celui des Lumières.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne s'agit absolument pas d'interdire. Il ne s'agit pas non plus d'autocensure. Il s'agit de se mettre dans une situation telle que la tolérance mutuelle puisse s'exercer, si vous voulez, dans une forme de consensus réciproque. Je ne veux absolument pas qu'il y ait une loi qui interdise, par exemple, les caricatures. Je crois que ça fait partie de l'esprit caustique français historiquement parlant, et par conséquent ça peut avoir sa légitimité historique. Mais je dis, on peut le modérer en prenant, par exemple, ce n'est pas tellement cette caricature qui m'a choqué, mais cette caricature, je crois, du prophète, fait peut-être par ce Scandinave, où le prophète s'était montré comme un chien, ou qui portait vraiment des bombes sur la tête, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien.
Oui, c'était des bombes sur son turban, mais il n'était pas comme un chien. Non,
enfin, il y avait quand même un animal. C'était un animal. Et par conséquent, moi, je trouve que c'est de mauvais goût, mais encore une fois, il ne s'agit absolument pas de vouloir dénier cette liberté fondamentale aux uns et aux autres dans l'exercice, si vous voulez, de leur intelligence.
Il y a une vraie question, effectivement. C'est que quand les Charlie Hebdo publie des caricatures, il faut le dire, très très offensantes sur les Juifs et les chrétiens, les Juifs et les chrétiens trouvent que c'est un peu nul, mais n'auraient pas idée d'aller poser des bombes ou d'aller adresser Charlie Hebdo. Et pourquoi, disons, au fond, pourquoi il me semble qu'ils ne le ressentent pas de la même façon. C'est qu'au fond, dans le monde juif et dans le monde chrétien, il y a quand même une longue tradition de la controverse, aussi bien, disons, les discussions entre rabbins juifs que les controverses même médiévales, tu vois. Enfin, donc, on a tout un entraînement, si vous voulez, à ce fait de se faire maltraiter, etc. Or, il semble que cet entraînement, disons, est est moins vif, si vous voulez, dans l'islam, dans lequel quand même la référence à l'unité, le souci de l'unité, le désir d'unité, disons, sont plus forts. Et que effectivement, d'arriver dans une société occidentale qui pratique, disons, et ça fait partie de son habitude, dont les membres sont habitués à ce genre, disons, de rapport, ça représente quelque chose de réellement difficile. Et qu'il y a, enfin, un phénomène d'acculturation. Alors, le problème par rapport au discours de l'islamophobie, c'est qu'il me semble justement que ce discours freine cette acculturation. Au lieu, disons, de dire ces choses raisonnables, ce discours, disons, de l'islamophobie tend à dire aux musulmans, mais globalement, vous êtes détestés, vous êtes haïs, vous n'êtes pas reconnus, vous êtes ceci, etc. Et donc, la seule solution qui vous reste, c'est de vous lever, de vous opposer, de construire une contre-société islamique et surtout de refuser de vous intégrer. Enfin, vous le décrivez bien dans votre livre, hein, sur une partie, disons, de ces jeunes qui, au fond, qui arrivent à croire que comme ils sont détestés, la seule chose qu'ils puissent faire, c'est de détester. Et c'est à ce titre que ce discours me paraît, en fait, vraiment très, très dangereux.
Je pense que si on regarde le faciès de ceux qui ont commis, par exemple, les attentats de Charlie Hebdo, c'est pas des musulmans, je veux dire, dans la rue, c'est des désaffiliés, comme disait Robert Castel. Tous ceux qui, enfin, les trois acteurs majeurs qui ont tué les journalistes de Charlie Hebdo sont les frères Kouachi et Koulibaly, et tous les trois étaient des désaffiliés, c'est-à-dire ils ont vécu dans des familles éclatées. Moi, je le décris en long et en large. Ils ont été dans des banlieues où ils ne lisent même pas les discours sur l'islamophobie. Il y a vraiment un environnement social, c'est ce que j'ai appelé l'urbain djihadogène. Il y a un environnement social qui pousse vers ces formes de radicalisation et qui ne touche pas tellement les musulmans, si vous voulez, intégrés de classe moyenne. Les gens de classe moyenne peuvent être fondamentalistes, mais tous ceux qui ont fait vraiment des actes horribles, si vous voulez, contre les journalistes ou contre les autres, sont de ceux dont l'origine remonte à ces phénomènes, si vous voulez, de banlieue en France, de quartiers pauvres, etc., avec une petite partie de classe moyenne et une petite partie, enfin petite à discuter, de convertis. Et là, c'est vraiment un problème. Par exemple, en France, selon les statistiques, entre 18 et 26% des jeunes qui se sont lancés dans le djihadisme sont des convertis, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas d'enracinement musulman. Ce n'est même pas un problème de civilisation, c'est un problème d'imitation, de prise en conscience, sentiment de vide, anomie, et la volonté d'en découdre. Bref, on est dans un phénomène extrêmement complexe où j'ai l'impression que ce discours islamophobique peut jouer un rôle mineur, mais dans l'ensemble, moi je crois que ces jeunes-là ignorent totalement ce type de discours, parce qu'ils ne lisent pas.
Ils ne lisent pas peut-être, mais quand même, ce discours est dans l'air. Et la dénonciation de l'islamophobie, on n'a pas besoin de la lire. On la sent, on l'éprouve, on la respire. Et elle place les musulmans ou les convertis des banlieues dans une situation de victime. Elle les enferme dans leur grief.
Ah oui.
Tout ce qui leur arrive vient de l'hostilité, du rejet, de la stigmatisation proférée par la société française. Et il me semble que cette attitude a quelque chose de dangereux ou de malsain. Il faudrait être capable de tendre à ces jeunes en perdition un autre miroir, si vous voulez, de leur éviter cette forme-là de complaisance, malgré tout. Parce que vous dites, en effet, dans le nouveau djihad en Occident, Farhad Khosrow Kavar, que c'est un urbain djihadogène. Oui, mais enfin, on peut se demander. Oui, d'accord, mais enfin, il faut rappeler aussi que pour la rénovation urbaine, l'État a dépensé plus de 40 milliards d'euros, qu'il y a des écoles toutes neuves, que certaines grandes écoles pratiquent aujourd'hui en France la discrimination positive, ce qui est tout à fait contraire à la tradition française. Donc, l'effort de l'État et de la société en faveur de ces populations est énorme. Mais si on leur dit, non, de toute façon, l'école est islamophobe, les employeurs sont islamophobes, l'État, la police sont islamophobes, eh ben, ça les renforce dans l'idée que la seule chose à faire est d'en découdre.
Moi, je pense que, enfin, sur le constat que vous faites, ainsi que M. Diribarne, sur le caractère nocif d'une vision qui consisterait à identifier la société française comme étant intégralement islamophobe, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je dis, c'est que ces phénomènes-là ne sont pas uniquement liés à un discours, mais il y a des conditions sociales. Par exemple, c'est ce que j'ai appelé chez ces jeunes la victimisation. Ce sentiment que toutes les portes sont fermées, alors qu'il y a maintenant la constitution d'une classe moyenne musulmane, même si cette classe moyenne est profondément aliénée, a le sentiment qu'elle est malmenée sur le plan culturel par la société. Peu importe, ça existe. Toutes les portes ne sont pas fermées, mais il y a quand même des préjugés qui font que, par exemple, un Mahomet n'a pas la même chance, avec un diplôme égal, d'obtenir un poste, si vous voulez, comme un Robert. Bon, cela fait partie de ce qu'on pourrait appeler le jeu de l'intégration. Toutes les sociétés mettent des barrières. Le problème essentiel, c'est de lutter contre ces barrières, tout en sachant bien que la tâche qui incombe aux musulmans consiste aussi à s'adapter à la société française.
Alors, oui. Alors, je crois que c'est tout à fait bien d'évoquer ces questions, si vous voulez, d'emploi. Je pense que sur cette question d'emploi...
Oui, c'est au cœur d'ailleurs de
votre avis. On a toute une série d'études, de testing, disons, très précis, etc. Et qui montrent à tel point, c'est beaucoup plus compliqué, disons, que le discours courant attend à le dire. Alors, il y a un premier testing qui a été très frappant, c'est quand le gouvernement a voulu instaurer le CV anonyme, donc en supprimant à la fois l'adresse et le nom, en se disant que, eh bien, en supprimant ça, on n'aura plus de discrimination à l'égard des gens qui viennent de banlieue avec un nom, disons, maghrébin. Et en fait, donc, Pôle emploi a fait, disons, une étude, a fait une enquête, et à la grande stupéfaction des auteurs de l'enquête, le fait du CV anonyme n'a pas amélioré la situation des gens venant de ces quartiers, mais au contraire l'a détérioré. Les auteurs même de l'enquête l'ont expliqué, bien, en disant que à partir du moment où dans un CV, il y avait des périodes de non-emploi un peu longues, il y avait des fautes d'orthographe, etc., le fait d'habiter dans certains quartiers ou d'avoir un certain nom, non seulement n'était pas considéré comme une circonstance aggravante, mais était au contraire considéré comme une circonstance atténuante. Et que donc, vraiment, on n'avait pas du tout de réaction pavlovienne, disons, à l'égard de l'islam, mais plutôt une certaine indulgence à l'égard de ceux qui avaient ces caractéristiques. Et puis par ailleurs, donc, il y a un autre, disons, grande étude, disons, qui a comparé, là cette fois, des personnes d'origine libanaise ayant des prénoms différents, mais en complexifiant beaucoup la chose. Disons, les uns avaient été dans des scouts confessionnels, les autres dans des scouts laïques. Ils postulaient à des postes qui étaient différents, des postes de qualification plus élevés, moins élevés, etc. Et on voyait que selon les situations, on avait des réactions totalement différentes des employeurs, avec vraiment des rapports allant de plus de 1 à 10, disons, dans les niveaux, disons, d'accueil. Et donc, on voyait bien à travers de ça que c'était les employeurs, au fond, n'avaient rien à faire de l'islam. C'était pas du tout leur problème, ni des musulmans. Leur problème, c'était de dire, est-ce que la personne que je recrute va me faire ou pas des ennuis? C'était vraiment ça. Et alors, évidemment, compte tenu de l'histoire de l'affaire Babyloud, etc., quelqu'un qui est vraiment qui est chez les scouts actifs, chez les scouts musulmans, on se dit, par rapport à quelqu'un qui est actif chez des scouts non confessionnels, on va plutôt préférer celui qui est actif chez les scouts non confessionnels. Mais pas parce qu'on se dit qu'il n'est pas musulman, mais parce qu'on se dit qu'il va probablement avoir une forme d'islam qui ne va pas l'amener à être offensif dans l'entreprise.
Alors c'est intéressant ce que vient de dire Philippe Diribarne. Ça tendrait à montrer que notre société est beaucoup plus ouverte à l'autre que ce que nous dit la dénonciation de l'islamophobie. Ce qui inquiète notamment les employeurs, c'est l'éventuelle fermeture de l'autre lui-même. Et là, on peut en revenir au voile. Le voile, c'est quand même l'affirmation d'une séparation. Non seulement la séparation entre les sexes, mais la séparation entre les religions. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, moi, je suis musulmane et je resterai à l'intérieur de l'islam. La mixité s'éloigne avec le voile. Et la mixité, le contraire de la mixité, c'est la séparation voire la sécession. Et peut-être est-ce ce séparatisme qui inquiète particulièrement la société française, parce qu'il peut mener, comme l'a dit François Hollande, à la partition, et parce que l'idéal, ce serait effectivement un idéal d'intégration qui n'a jamais été le sacrifice de l'origine, de l'identité, de l'histoire propre à la nation française, mais qui a été, qui est et qui devrait être toujours l'acceptation des normes, des habitudes, des règles et des traditions qui prévalent dans ce pays. N'est-ce pas là le problème, Farhad Khosrokhovar ?
Je crois que vous touchez du doigt un problème majeur, mais je pars d'un exemple concret. En prison, par exemple, il y avait des surveillants d'origine maghrébine que j'ai interviewé, comme j'ai interviewé beaucoup de jeunes, et qui me disaient, j'avais un diplôme de droit, avait une licence de droit. Mes copains, Robert, etc., ont eu des postes importants dans le privé, et moi, à chaque fois, on me le refusait. C'est pour cette raison que j'ai passé le concours pour entrer dans l'administration pénitentiaire comme un surveillant. On peut penser que tout ça, c'est vraiment leur vécu, que c'est leur subjectivité, que c'est la conscience malheureuse de Hegel. Mais en même temps, il y a un contenu réel. Je veux dire, ces enquêtes, ces contre-enquêtes, etc. D'ailleurs, un peu partout en Europe, on a ces phénomènes-là. Et c'est pas seulement spécifique à la société française. Que le voile, par exemple, le foulard, comme vous le dites, sépare, oui et non. Le foulard peut être comme, par exemple, pour les catholiques, si vous voulez, la croix. Dans les années 1900, quand une catholique avait, si vous voulez, des insignes religieux, il était perçu par les républicains comme étant irrécupérable. Or, maintenant, on sait bien qu'avec le temps, les choses peuvent s'arrondir, les angles peuvent s'arrondir. De même pour le foulard. Le foulard peut se transformer en une sorte de parti pris individuel dont il ne faut pas exagérer l'étendue. Si, toutefois, la personne n'entend pas l'imposer aux autres, si la personne n'entend pas en faire un emblème de sa supériorité vis-à-vis des autres. Et donc, par conséquent, c'est toute l'ambivalence de ce phénomène qu'il faut analyser, et il faut faire en sorte que le foulard devienne ce qu'il est, c'est-à-dire un morceau de tissu sur le visage, sans que cela porte préjudice dans les relations avec l'autre. Cela est possible, de même que pour les chrétiennes, ça a été fait aux États-Unis, jusque dans les années 1950. On pensait que les catholiques étaient inintégrables dans la société américaine, parce qu'ils ne pouvaient pas être démocratiques. Parce que, du fait de leur adhésion, si vous voulez, à la papauté, en quelque sorte, il était, oh, maintenant, les choses se sont faites. Ouais. Je veux dire, l'histoire est faite précisément par ces formes de rugosité qui, par la suite, risquent plus ou moins de devenir des phénomènes beaucoup moins graves qu'on ne le pense au début.
Mais je crois que vous avez soulevé une question très, très importante, et celle de la séparation. Vous savez que la Tunisie, donc, en décidant très récemment que dorénavant une musulmane en tunisienne aurait le droit d'épouser un non-musulman, a fait une sorte de révolution dans le monde musulman. Et s'est fait très très sévèrement critiquer par l'université d'Al-Azhar. Et beaucoup de Français, j'en suis, connaissent des tas de situations très très difficiles hein, dans lesquelles un Français non-musulman a épousé une musulmane et a dû se livrer à des contorsions, a dû aller déclarer qu'il se convertissait alors qu'il se convertissait en fait pas du tout. Des situations au pire dans lesquelles la musulmane ayant épousé un non-musulman s'est fait enlever par sa famille, séquestrée, disons, etc. Et disons, cette affaire, si vous voulez, de là... Du rapport, disons, de ce que les anthropologues appellent l'échange des femmes, enfin dans lequel finalement chaque groupe accepte que ces femmes épousent, disons, les membres de l'autre groupe, reste une question très sensible. Et là, je pense par exemple au livre d'Ouria Boutedja, Les Blancs, les Juifs et nous, dans lequel elle déclare « j'appartiens à ma communauté, j'appartiens à ma religion, j'appartiens à ma race », et par conséquent, il n'est absolument pas question qu'un non-musulman porte le regard sur moi. Et du reste, elle dit même, si jamais un non-musulman s'intéresse à moi, vous allez voir que mes frères musulmans vont se lever tous en masse et vont lutter, vont s'opposer, etc. Donc là, on est vraiment, si vous voulez, dans une perspective de refus du partage. Alors, Dans la réalité, bien sûr, il y a toute une série, c'est plus compliqué, il y a des musulmanes, qui, etc. Mais je n'en ai pas d'études de corrélation entre le port du voile et le refus d'épouser un non-musulman, mais je soupçonne que la corrélation doit être très élevée.
Alors, je lis le passage d'Ouria Boutedja. J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. Nous appartenons à la communauté et nous l'assurons de notre loyauté. Lorsque, par exemple, le patriarcat blanc déclare « Ô homme indigène, je suis beau, fort, intelligent, bien plus que tu ne seras jamais, et je vais te prendre ta femme », il imagine un homme capitulaire qui lui répondrait « Mais serre-toi, fais comme chez toi », il ignore qu'il s'adresse à un adversaire, un ennemi redoutable qui défendra son bien. Et c'est ce que fera le mâle indigène, il défendra ses intérêts d'homme, sa résistance sera implacable. Mais là, je voudrais vous poser une question. Ouria Boutedja dit ça dans un livre publié à La Fabrique, et elle est défendue aujourd'hui par beaucoup de militants antiracistes et féministes. C'est-à-dire que le néo-féminisme va jusqu'à la défense d'Ouria Boutedja et le voile aux États-Unis est devenu l'emblème du néo-féminisme, voire de MeToo. Comment expliquez-vous ce phénomène si étonnant à l'égard de ce qu'était le féminisme à l'ancienne et de ce qu'on croyait être les principes de l'Europe des Lumières, Philippe Derivard?
Je crois qu'il y a la vieille question, quel est le front principal et quel est le front secondaire? Donc, il y a eu déjà une époque, disons, avec le monde communiste. Donc, je pense que pour ces néo-féministes, etc., le front principal, c'est la haine de l'Occident. Et qu'à partir du moment où on est dans la haine, le passage que vous avez lu...
C'est l'occidentalophobie.
Voilà, et bien dans cette haine. Alors, à partir du moment où on est dans la haine de l'Occident, là, il faut se serrer les coudes, et à ce moment-là, les problèmes qu'on a entre nous deviennent tout à fait secondaires.
Oui, mais vous dites aussi que ce qui caractérise la société postmoderne, c'est la contradiction entre deux valeurs. La première valeur venue des Lumières, le libre examen, et la deuxième, celle d'égalité, qui va jusqu'à l'égalité des cultures. Et donc, ce qu'on pourrait proscrire au nom du libre examen, on l'admet aujourd'hui au nom de l'égalité des cultures. Et c'est ça la différence, par exemple, entre le néo-féminisme et le féminisme emprunt de la pensée des Lumières, qui était une philosophie d'émancipation.
Oui, tout à fait. Enfin, effectivement, le féminisme, disons, classique, représenté par exemple par Elisabeth Banater dit des choses très fortes sur le fait qu'elle acceptait d'être accusée d'être islamophobe, parce qu'elle voulait voir la réalité en face.
Alors, Farhad Khosrokhova, dans votre livre « Le nouveau djihad en Occident », vous insistez quand même sur les causes sociales du terrorisme, de cette radicalité apocalyptique. Vous dites, le monde moderne est de plus en plus inégalitaire, le fossé des classes s'est transformé en un gouffre infranchissable dans de nombreux pays, et vous dites, l'enthousiasme des jeunes qui veulent rejoindre un nouvel État islamique a des dimensions économiques indéniables, précarité chez les jeunes des banlieues, insécurité sur l'avenir pour les classes moyennes, etc., etc. Mais je reste un peu dubitatif, parce que l'argument publicitaire de l'État islamique, c'est la violence absolue. Comment peut-on déduire d'une situation éventuelle d'exclusion ou de stigmatisation cet attrait pour la violence totale? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'interroger sur un phénomène intérieur à l'islam, et là nous en revenons à l'inégalité, l'oppression des femmes qui opprime aussi les hommes. C'est Fethi Ben Slama qui dit « Cette oppression, psychanalyste toulisien, organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle. » Et c'est cette violence peut-être qui se donne libre cours dans le djihadisme.
En fait, il y a deux problèmes là qui me paraissent essentiels dans dans les objections que vous soulevez et qui me paraissent très pertinentes. D'abord, ce sont des jeunes qui sont, dans leur écrasante majorité, quand on les voit, désislamisés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'islam. Moi, j'étais étonné de voir en prison que la plupart de ces jeunes qui se réclamaient du djihad, qui se réclamaient de la guerre contre l'Occident au nom de l'islam, ne savaient pas faire les prières quotidiennes. Bref, on ne peut pas dire que c'est un islam lié au rituel musulman, lié à ce qu'on pourrait appeler une civilisation de ségrégation, etc. C'est une forme d'expression de soi, d'individus totalement désaffiliés, comme disait notre ami Robert Castel. Et je pense que la plupart de ces jeunes ne connaissaient pas l'islam quand ils se sont attaqués aux uns et aux autres. Souvent, ils l'ont appris, par exemple, dans des livres sur l'islam pour les nuls. Et par conséquent, dire que c'est de l'islam, moi, je dirais plutôt c'est un processus de désislamisation qui a poussé vers des formes d'extrémisme dans une forme identitaire d'affirmation de soi fictive et mythifiée. Un second point que je voulais vous avancer, c'est que on est dans des sociétés qui n'ont plus d'utopie. Moi, c'est, quand je dis que c'est le fossé de classe, etc., mais aussi, j'insiste sur le fait qu'on n'a pas d'utopie. Avant, il y avait l'utopie républicaine, l'utopie socialiste, l'utopie féministe, l'utopie communiste. Maintenant, il n'y a plus d'utopie. On est dans des sociétés sans utopie. C'est pour cette raison qu'une dystopie, une utopie négative, régressive et répressive, comme celle de l'islam radical, si vous voulez, attire tant de jeunes. Il y en a eu quelque chose comme 5900 de l'Europe qui sont partis, et il y en aurait eu vraisemblablement trois fois plus si on n'avait pas mis, si vous voulez, le téléphone vert, le hotline, etc., et l'accord avec la Turquie. Bref, il y a une attirance de la violence chez des jeunes qui sont désocialisés et qui ont besoin d'un ciment social qui manque cruellement dans nos sociétés européennes.
Mais un ciment social, ça ne va pas forcément de pair avec toutes ces décapitations. Mais surtout, dans ces quartiers, ces jeunes désislamisés, Farhad Khosrokavar, dans les quartiers, les femmes ne sont pas présentes. Ce sont très souvent, on l'a remarqué, à Sevran ou à Rieux-le-Pape, des cafés sans femmes. Et les femmes qui ne portent pas le voile et bien plutôt une tenue islamique stricte, ben elles revêtent des pantalons de survêtement pour dissimuler leur forme. Sinon, quand elles sont en jupe et qu'elles sont coquettes, on les insulte. Donc tout cela, justement, ils entretiennent, même chez ceux qui n'ont pas d'éducation religieuse, une espèce de frustration qui peut, évidemment, déboucher, me semble-t-il, sur la pire des violences et qui doit être mise en cause avant l'inégalité sociale, les problèmes économiques qui se posent à d'autres que les jeunes gens musulmans en France et qui ne les conduit pas à de telles extrémités.
Les convertis, monsieur Fingelfrod, les convertis précisément, encore une fois, plus d'un sur cinq, et précisément, ça montre ô combien ça présente un attrait pour ces jeunes qui sont désaffiliés. Moi, je pense qu'il faut bien comprendre qu'on a un problème non seulement d'économie, mais aussi d'absence d'utopie. Et quand il y avait le républicanisme, si vous voulez, a donné un sens aux pauvres qui trouvaient la dignité dans leur adhésion au Parti communiste ou à des formes d'identification avec une humanité en marche vers le progrès. Or, tout cela a disparu. Il nous faut réinventer d'urgence des formes nouvelles d'utopie. L'utopie, par exemple, écologique, l'utopie des droits de l'homme, l'utopie. Il faut lui donner sens et il faut que les intellectuels aillent dans le sens de recréer les conditions sociales pour des formes d'utopie constructives et non pas régressives et répressives.
Bien, alors c'est vrai, mais le communisme, c'était un avenir radieux. La République, c'était un avenir d'émancipation. Daesh, c'est une utopie, un avenir sanglant.
On est d'accord.
Effectivement, nous sommes d'accord là-dessus.
Tout à fait d'accord.
Bien, mais la question aussi est de savoir où on va. C'est-à-dire que il y a des crispations à l'intérieur de l'islam, mais est-ce que l'évolution vous paraît positive? Est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce que les femmes qui arborent aujourd'hui par exemple le voile seront amenées dans les décennies futures à l'enlever, à se mêler plus facilement à la population, comme ça a été, vous l'avez dit, Farhad Khosrokavar, le cas des catholiques, ou le phénomène est-il très différent selon vous, Philippe Diribarne?
on a une fracture majeure à l'intérieur du monde musulman. On a quand même toute une partie importante des musulmans dans lequel leur perspective, c'est d'être de bons occidentaux, de bons citoyens, des sociétés occidentales, et de faire ce qu'il faut pour être tout à fait intégrés normalement. Et du reste, dans l'étude de l'Institut Montaigne, on voit bien que cette question c'est du voile est au fond un grand marqueur de quelle position on prend. Est-ce qu'on est dans une perspective plutôt d'intégration ou une perspective au contraire de construction d'une contre-société. Alors actuellement, il est clair que les deux tendances sont fortes et que ces deux tendances du reste s'opposent, hein, que les gens qui sont à la construction de d'une contre-société traitent ceux qui s'intègrent de collabeurs, arabes de service, etc. Et ceux qui sont au contraire bien intégrés considèrent les autres comme des barbares, veulent pas les connaître, surtout quittent les endroits, ne veulent pas habiter avec eux, vont habiter dans des quartiers si possible bourgeois s'ils en ont les moyens, etc. Alors je crois que là, il y a quelque chose qui dépend de nous, qui dépend des sociétés occidentales. Le président de la République, il n'y a pas longtemps, de sa conférence de presse, a évoqué cet islam politique qui est en train, sous couvert de religion, de créer une contre-société. Mais pour le moment, il se passe pas grand-chose pour essayer de limiter l'emprise, disons, de ce type d'islam. Alors, il s'est passé des choses, par exemple, quand on a fait la loi sur les signes religieux à l'école, dans lequel, je crois que ce qui a convaincu une bonne partie des membres de la commission Stasi, ce sont les déclarations de jeunes filles qui disaient « le seul moyen que je peux avoir, moi, d'être protégé contre les pressions qui s'exercent sur moi, c'est que je n'ai pas le droit de le faire ». Et ça, c'est du reste une chose qui ne concerne pas seulement l'islam. Dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de sociétés, seule l'interdiction permet d'être protégé contre la pression du groupe. Et donc, en France, quand on a imposé l'école obligatoire, c'était aussi pour limiter la pression du groupe. Donc là, il me semble qu'il y a des pistes qu'on a besoin d'explorer beaucoup plus.
Alors, mais justement, j'aimerais, Farhad Khosrokhava, partager votre optimisme, mais dans son livre « Islamophobie, intoxication idéologique », Philippe Diribarne cite le témoignage du regretté Abdelawa Medeb, et celui-ci dit qu'il avait vu le dévoilement à l'œuvre, notamment en Tunisie, et il a été le témoin d'un revoilement. Il dit « Je dois avouer que j'ai ressenti comme un choc lorsque le revoilement des femmes est revenu sous mes yeux dans l'une des citadelles de la liberté de la culture occidentale, c'est-à-dire en France, à Paris. » C'est le revoilement qui a lieu aujourd'hui. Donc on va plutôt dans ce sens. Et puis, une autre inquiétude par rapport, justement, au djihad. Djihad, c'est la violence apocalyptique. Et l'islamisme politique, avec son projet de contre-société, qui peut être aussi, notamment chez Youssouf al-Qaradawi, un projet de conquête par la prédication et l'idéologie, et non pas par l'épée, eh bien, le projet islamique peut apparaître, si vous voulez, avec ce repoussoir, avec ce faire-valoir du djihad, comme une version modérée et donc acceptable de l'islam. Vaut mieux les frères musulmans que les djihadistes, et donc on peut donner un chèque en blanc aux frères musulmans. N'est-on pas placé sous cette menace aussi, Farhad Khosrokhava?
Je prends le premier exemple que vous venez de citer, à savoir qu'il y a un revoilement. Effectivement, il y a un processus de revoilement par rapport à la période où on a essayé d'imposer le dévoilement, par exemple en Turquie avec Atatürk, en Iran avec Reza Shah et dans d'autres pays musulmans. Mais il y a aussi un problème de dévoilement dans la société musulmane. L'Iran, si on ouvre la société iranienne, si actuellement en Iran on donne la liberté, moi je pense qu'une partie relativement conséquente des jeunes filles et femmes ne porteront pas le voile. Cela ne veut pas dire qu'elles rompent avec l'islam. Ça veut dire qu'elles rompent avec une version hermétique, fermée et en un sens intolérante de l'islam. De même, si on prend l'Arabie Saoudite, on voit bien que pas mal de femmes maintenant commencent à ruer dans les brancards. Oui. Par conséquent, il y a un phénomène de revoilement, mais aussi un phénomène de dévoilement. Et comme tous les phénomènes complexes de société, c'est un phénomène qui a, si vous voulez, la moitié du verre vide, la moitié du verre plein. Et d'ailleurs, dans les mouvements sociaux actuellement, en Algérie, au Soudan, ailleurs, l'islam ne joue plus un rôle important. Je veux dire, c'est comme une sorte de balancier, phénomène de balancier. Il y a des périodes où on voit bien que l'islam est au centre de mire. Par exemple, quand c'est l'échec des nationalismes arabes, le pan-arabisme de Nasser qui a été catastrophique pour l'Égypte et le monde arabe. Et par contre, quand on a une société comme l'Iran, après plus de 4 décennies, si vous voulez, de théocratie, on voit bien que les nouvelles générations rejettent cette forme d'islamité, si vous voulez, sous contrainte. Par conséquent, moi, je crois que c'est un phénomène qui n'est pas du tout à sens unique. On est dans un sens beaucoup plus ouvert. Quand vous dites aussi, le second point qui est aussi tout aussi important, à savoir donner un shaker blanc en blanc à aux frères musulmans contre les islamistes radicaux, là aussi, il faut bien voir qu'on est dans des formes de laïcité perverse, par exemple, comme en Égypte, où au nom de la modernité, il y a quand même un système répressif qui a été mis en branle. Par conséquent, nous devons essayer de présenter la version démocratique de la laïcité contre ces choses. Et moi, je pense qu'une version démocratique de la laïcité n'est pas anti-islamique. Elle est tout simplement contre l'hégémonie d'une forme de religiosité, quelle qu'elle soit, dans une société, au nom du respect des droits des uns et des autres à la libre, au libre exercice de leur conscience.
Un mot pour finir, Philippe Dirabard.
Oui, je suis bien d'accord avec ça. Si vous voulez, il y a des choses qui sont en train de se construire. Hein, et donc, ça nous appartient aussi. Ça appartient aux musulmans. Ça dépend beaucoup de ce que vont faire les musulmans. Mais ça appartient aussi aux occidentaux de savoir comment, qui vont favoriser et s'ils vont favoriser ceux qui, justement, veulent devenir des bons occidentaux ou leurs adversaires.
Très bien. Merci beaucoup, Philippe Diribarne. Je rappelle le titre de votre livre, Islamophobie, intoxication idéologique, anatomie d'une imposture, tel est le sous-titre. Il est publié aux éditions Albin Michel. Farhad Khosrokhava, vous avez publié chez Robert Laffont, Le nouveau djihad en Occident. Et je voudrais citer aussi le livre de Pascal Bruckner, Un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité. Il est un peu plus ancien. Il a été publié chez Grasset. J'avais essayé de monter une émission à ce moment-là et tous les interlocuteurs éventuels de Pascal Bruckner s'étaient récusés. Je suis heureux que cette émission aujourd'hui ait pu avoir lieu. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Les mots que nous aimons. Et mes invités seront Belinda Cannon et Nathalie Azoulay. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Valérie Lavalard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.